Podanast. Au micro, bonjour et bienvenue dans votre émission musicale sur les ondes de Radio Grand Ciel, émission Crescendo. Ensemble, eh bien, pendant ces 30 minutes, nous allons feuilleter la vie d'un compositeur à la lumière de ses œuvres et de son époque musicale, à la lumière d'une œuvre phare qui a pu marquer l'histoire de la musique. Pour notre rendez-vous aujourd'hui, nous nous rendons en Angleterre, au XVIe siècle, à la rencontre d'un musicien qui ne fut pourtant pas prophète dans son pays, qui connut une gloire essentiellement posthume, d'ailleurs plutôt récente, puisque jusqu'au début du XXe siècle, ce compositeur était demeuré dans l'oubli. Alors contribuons aujourd'hui encore à réparer cette lacune grâce à cette émission et entrons dans ce nouveau numéro de Crescendo consacré aujourd'hui au musicien anglais John Dowland. Semper Dowland, c'était le titre de cette première pièce que nous venons d'écouter, qui nous met bien dans cette atmosphère si particulière pour illustrer ce musicien qui était John Dowland, avec cette douce mélodie mélancolique, symbole à elle seule de la musique consorte, c'est-à-dire consorte avec ensemble de viol et lutte, cet ensemble si particulier que Dowland a affectionné dans son écriture. Et bien, donc avec cette émission, nous allons faire un peu plus connaissance avec ce compositeur, comme je le disais, dont la gloire et la notoriété toute récente à l'endroit de ce musicien qui, faute d'avoir été engagé bien en son temps par la reine Elisabeth qui régnait alors sur la cour d'Angleterre, eh bien ce musicien vécut plus de la moitié de sa carrière à l'étranger. Alors John Dowland, il est né en 1563, il est le contemporain presque exact de deux personnes importantes, deux autres artistes, Sweeney, qui était musicien hollandais, et puis surtout du grand écrivain Shakespeare, poète dramaturge, qui est né juste une année plus tard, Shakespeare. Il est né en 1564. Alors Delande, eh bien, on commence par un grand mystère puisqu'on ignore tout de ses origines, de son éducation et de ses véritables débuts de musicien. On le retrouve encore adolescent, il a 17 ans et il est attaché en qualité de valet au service de l'ambassadeur d'Angleterre à Paris. Il a donc séjourné et puis joué et travaillé en France, au service de l'ambassade d'Angleterre à Paris. Et il passa dans cette ambassade 4 années, à partir de 1580 jusqu'à 1584. Donc 1580, il a alors 17 ans. Et ce qui est étonnant, c'est que bien que né dans une Angleterre protestante, eh bien, Delande se convertit au catholicisme. Et en 1584, il quitte Paris, il rentre en Angleterre où il se marie. Il commence à postuler, eh bien, pour le poste de luthiste à la cour de la reine d'Angleterre, mais en vain. D'après lui, sa candidature, on retrouve ça dans l'un de ses écrits, aurait été rejetée en raison de sa conversion à la religion catholique. Bon, néanmoins, cette conversion n'avait pas été rendue publique et à l'époque, être catholique n'empêchait en rien un musicien de cour en Angleterre de poursuivre et conduire sa carrière, car c'était notamment le cas de William Byrd qui lui affichait clairement sa position de catholique. En 1584, eh bien, Delande, face à ce refus de la cour d'Angleterre de l'engager, part pour un long voyage qui doit le conduire à Rome pour rencontrer d'autres musiciens comme par exemple Luca Marenzio ou Giovanni Croce qui sont deux grands compositeurs à l'époque. Et la renommée de Delande est-elle grandissante? Et on peut s'arrêter un instant sur son instrument de prédilection de Delande, c'est-à-dire qui était le luth. Alors pour décrire rapidement le luth, c'est sommairement, on peut dire que c'est l'un des ancêtres de la guitare. Le nom de luth désigne des instruments à cordes pincées ayant une caisse de résonance bombée. Alors, il est d'origine égyptienne, il a été introduit en Europe par les Arabes via l'Espagne, et il se répand en Occident à partir du XIVe siècle pour devenir un instrument primordial à partir du XVe siècle. C'est l'instrument à l'époque idéal pour accompagner les voix. Alors d'abord il a eu 4 cordes, puis il évolue vers 5 cordes et ensuite 6 cordes qui sont par la suite doublées avec un deuxième rang de cordes qu'on appelle les chœurs. C'est, si vous êtes amoureux des peintures de Caravage, eh bien c'est un luth que tient le jeune musicien sur la fameuse peinture du Caravage, cette peinture qui s'intitule Le musicien au luth. Et pour illustrer notre propos, eh bien nous allons écouter de nouveau Delande avec cette pièce pour voix et luth intitulée If My Complaints. If my complaints. If my complaint, si mes complaintes amoureuses pouvaient s'effacer, c'est la traduction de cette très belle pièce signée d'Hollande. Alors revenons sur le parcours, la vie de ce compositeur en 1595. En 1595, eh bien, d'Hollande se fixe en Allemagne à la cour de Brunswick et une année plus tard, en 1596, il revient de nouveau en Angleterre pour solliciter, pour obtenir de la reine une protection qui lui semblait acquise, mais là, nouveau refus. Et malgré ce nouvel échec, ou peut-être à cause de ce nouvel échec, d'Hollande, eh bien, ça donne à l'étude et à la composition. L'étude, il reçoit le titre de bachelier, de la part de deux universités, l'université de Cambridge et puis l'université de Oxford. En 1598, c'est le roi Christian IV, qui est roi de Danemark, qui le nomme luthiste à sa cour. Et ce dernier, eh bien, ce roi de Danemark ne ménage guère ses efforts et ses témoignages de générosité à l'égard de son virtuose. D'Hollande restera 8 ans au Danemark, de 1598 jusqu'à 1606. C'est pendant cette période qu'il publie son œuvre considérée comme l'œuvre la plus célèbre de D'Hollande, Les Lacrymées ou Seven Tears, qu'il publie en 1604. Alors, on peut traduire ça par les larmes ou les sept pleurs. Eh bien, dans ce recueil figurent 7 pavanes ainsi que des gaillardes qui sont écrites pour consorte, donc 4 viols ainsi que pour un luth. Et on sait aujourd'hui, alors on ne sait pas exactement à quoi fait référence le chiffre 7 qui est employé par d'Hollande. Alors on a souvent cité des références littéraires, des références musicales ou même religieuses, on peut en trouver à foison. Alors face à ces pleurs, eh bien, comment ne pas faire un rapprochement entre l'œuvre de d'Hollande et puis sa détresse, alors car cette œuvre est publiée au lendemain de la mort de la reine Élisabeth. La reine Élisabeth meurt en 1603 et d'Hollande publie Les Lacrymées, les larmes, en 1604. Alors, Élisabeth Ière, eh bien, elle a régné assez longtemps. Elle fut reine d'Angleterre et d'Irlande pendant 44 années, plus exactement, de 1558 jusqu'à 1603. Elle est la fille d'Henri VIII, qui était lui-même musicien, et puis d'Anne Boleyn, qui, la pauvre, a mal terminé sous le règne de son mari, Henri VIII. Alors, le règne de la reine Élisabeth fut une période d'une richesse extraordinaire dans le domaine des arts, et cette floraison artistique est due, eh bien, aux subsides abondants accordés par la reine, qui voyait certainement dans le développement de l'art une façon de magnifier son image, ainsi que celle de son pays. Alors écoutons la première de ces 7 larmes qui figure dans ce très bel ouvrage publié par d'Hollande en 1604. On écoute la première de ces Lacrymées.
Thank you.
C'était la première de ces lacrymées d'Hollande. Alors on sent bien dans cette musique toute la personnalité tourmentée et sensible du musicien qui en fait peut-être et certainement un romantique avant l'heure grâce à ce chef-d'œuvre de l'ensemble pour consorte qui donne ses lettres de noblesse aux luttes et puis à cette musique élisabéthaine plus emblématique que jamais. Alors, d'Hollande, en 1608, eh bien, après avoir passé le tiers de sa vie d'adulte à l'étranger, il retrouve enfin son pays, l'Angleterre, et il constate non sans amertume l'indifférence de la cour envers sa musique. Alors il se consacre de nouveau à ses travaux, à la composition, à la traduction, puisqu'il a travaillé une partie de sa vie en Allemagne, il maîtrise bien l'allemand, et bien il se penche sur la traduction d'un traité musical qui se nomme Micrologus. Il collabore également à l'édition d'un livre de leçons pour luth. Eh bien, ce livre, il est édité et mis en musique par son fils Robert, Robert d'Hollande. Il collabore à l'édition de ce livre. Et puis lui-même, il écrit et édite son quatrième et dernier recueil d'œuvres pour voix et luth au titre révélateur de Pilgrim's Solace, c'est-à-dire Consolation du pèlerin. Et enfin, en 1612, eh bien, cette consolation arrive bien tardivement. On lui propose enfin une place parmi les luthistes de la chambre du roi. Et à 50 ans, eh bien, le musicien grisonnant épuise ses dernières forces créatrices dans la composition de quelques brèves méditations spirituel. Et puis, eh bien, il ne composera presque plus. Et d'Hollande s'éteindra en 1626 à l'âge de 64 ans. Alors, au début de cette émission, eh bien, j'évoquais la redécouverte toute récente des œuvres de d'Hollande. Et il est un chanteur pour le moins inattendu qui a repris ses œuvres, c'est le chanteur Sting. Son album, il a édité un album en 2006 intitulé Song of the Labyrinth, chanson du labyrinthe. Alors quand on évoque le labyrinthe, on pense évidemment à Chartres, on fait le parallèle avec Chartres. Eh bien, il y a un parallèle réel qui existe puisque dans cet album et lors des tournées de concerts qu'a effectué Sting pour promouvoir cet album, il a utilisé un luth sur lequel est gravé sur la tablature est gravé le labyrinthe de Chartres. Alors cet album est entièrement consacré à d'Hollande et ce qui est amusant de constater et d'écouter surtout, c'est que eh bien le chanteur garde son style pop musique, ce qui fait un mélange un petit peu étonnant de la musique ancienne avec une interprétation moderne, et bien ce qui prouve que quand la musique est bien écrite et qu'elle est un chef-d'œuvre comme les pièces de d'Hollande, et bien elle peut s'adapter à tous les styles. Alors écoutons ensemble ce que propose Sting avec un extrait de cet album et cette pièce Can't She Excuse.
Can't she excuse my wrongs with virtue's cloak? Shall I call her good when she proves unkind? Are those clear fires which vanish into smoke? Must I praise the leaves where no fruit I find? No more as shadows do for bodies stand. Thou mayst be abused if thy sight be dim. Cold love is like to earth's return on sand, or to bubbles which on the water swim. Wilt thou be thus abused and still, seeing that she will write thee never, if thou canst not overcome her will, thy love will be thus fruitless ever.
grace that I might not aspire unto those high joys which she holds for me. As they are high, so high is my desire. If she this deny, what can granted be? If she will yield to that which reason is, it is reason's will that love should be just. Dear, will make me happy still by granting this, or cut off delays if that I die must. Better a thousand times to die than for to live the still torment. Live but remember it was I who died, so that's it, did I contend. Better a thousand times to die than for to live the still torment. Live but remember it was I who died, so that's it, did I contend.
Semper Dolens, Semper Dolens, c'est le titre de la toute première pièce que nous avons écoutée dans cette émission, que l'on peut traduire que par toujours Dolens, toujours dolent, c'est-à-dire toujours douloureux. Dolens s'est pratiquement contenté de composer pour son propre usage, nous laissant une floraison de chansons et de pièces pour luth qui, par leur poésie et leur délicate sensibilité, lui assureront quelques siècles plus tard la postérité. Alors, cette longue période de vie errante du musicien conserve bien des mystères, et si lorsqu'on évoque la musique élisabéthaine, on pense immédiatement à Dolens, et bien le plus étonnant est de découvrir finalement qu'il n'aura jamais été engagé à la cour de la reine Élisabeth, du vivant de la reine Élisabeth, et ses compositions, les compositions de Dolens pour ensemble de viol de gambe et accompagnement de luth marquent et marqueront à jamais l'histoire de la musique, c'est-à-dire en un point culminant dans le développement d'une musique instrumentale séparée de la voix. Voilà, j'espère que nous aurons contribué dans cette émission à vous familiariser un peu plus avec ce musicien anglais qui était John Dolens. Je vous encourage à aller sur le site internet de Radio Grand Ciel, la page de notre émission. Vous pourrez retrouver les références musicales que je vous ai proposé aujourd'hui. Merci à Simon qui était à la technique. Et puis on se quitte avec eh bien une gaillarde. Une gaillarde, c'est un pas de danse anglais, une gaillarde anglaise intitulée Now Oh Now. Et cette gaillarde eh bien, a également un sous-titre. On l'intitule la Frog Gaillarde, c'est-à-dire la danse de la grenouille. Voilà, c'est sur cette danse de la grenouille que je vous quitte. Merci à tous pour votre attention et votre écoute. À très bientôt.
Gone are all my joys at once.